et bienvenue à Apple Différemment. Apple Différemment, c'est un podcast qui traite de la compagnie Apple, mais ça se fait pas tout seul, ça se fait avec Audrey, formatrice, autrice et youtubeuse d'Apple. Bonjour Audrey, comment vas-tu?
Salut Matt, ben écoute, ça va très très bien.
On est le 17 juin, et pour la petite histoire, Audrey et moi, on vient de discuter avant l'émission, et on est un peu fatigué, on a hâte aux vacances d'été, c'est ça?
Ouais, c'est ça. On a hâte de souffler un peu, et puis non, la semaine chargée, et puis nos agendas correspondent pas forcément. Donc voilà, on trouve une petite heure pour enregistrer cet épisode.
Excellent. Et moi, tant qu'à moi, je suis un créateur de podcast et fanboy de la marque, évidemment. Alors, on va y aller d'entrée de jeu parce que les délais d'enregistrement nous limitent un petit peu. D'entrée de jeu, Audrey, est-ce que tu as suivi la WWDC, la conférence des développeurs Apple qui a eu lieu il y a quelques semaines?
Oui, je l'ai suivi. Alors, pas en direct, je l'ai regardé le lendemain parce que j'étais au travail. Mm-hmm. Mais franchement, une super, super, super keynote. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de trucs géniaux qu'on attendait là. Enfin, c'est vraiment, c'est Noël, quoi. Oh ouais. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais...
Ouais, absolument. Mon ressenti est exactement le même que toi. Je pense que de préparer une keynote ou une présentation sans avoir de leak à l'avance, ou d'en écouter par Internet, ainsi de suite. Je pense que c'est toi qui l'avais dit dans un des épisodes que tu veux pas y regarder les rumeurs et les leaks qui peuvent avoir sur Internet parce que tu veux pas savoir ce qui va t'arriver ou comme tu veux pas connaître ce qu'il va avoir dans ton cadeau avant de le déballer, en fait. Je pense que c'était tes phrases que tu utilisais. Et ils ont bien réussi parce qu'il y a plein de trucs tout nouveau auquel on s'attendait pas du tout au niveau logiciel. Pour la petite histoire, c'est la conférence vraiment logicielle où on a habituellement un nouveau système d'exploitation pour mobile, un nouveau système d'exploitation pour les ordinateurs, et évidemment TVOS pour la télé et pour les montres. Mais on a eu aussi une petite surprise à la fin au niveau matériel. Alors ça, on vous réserve ça à la fin de cette actualité concernant la WWDC. Audrey nous a préparé un dossier sur l'aspect matériel qui a été découvert, en fait un bref retour sur l'histoire de ce matériel-là, mais on va commencer d'entrée de jeu avec la suite des présentations et des outils et des nouveautés qu'il y a pu y avoir dans la WWDC. Ils ont commencé d'entrée de jeu avec une présentation. La première chose qu'ils ont présentée à la conférence des développeurs, c'est la télésérie d'Apple TV+, For All Mankind. C'est une télésérie qui a rapport avec l'offre qui va arriver à l'automne, mais il n'y avait pas autre chose que... En fait, on a commencé d'entrée de jeu avec ça. Toi, quand tu as regardé la conférence, la WWDC, as-tu été surprise qu'on embarque tout de suite sur une publicité d'un produit qui n'est pas encore arrivé, mais une publicité d'un produit grande consommation?
Oui, parce que c'est vrai que cette conférence donc est réservée aux développeurs et aux grands passionnés, comme on peut être nombreux ici ou ailleurs. Ouais, j'ai trouvé ça un peu étonnant. Après, ils ont pas trop traîné là-dessus. Je me suis dit, j'espère qu'ils vont pas nous refaire le coup de la keynote qui dure 3 heures sur Apple TV+ et tout ça. Donc, j'espère que... Enfin, je me suis dit, que j'espérais que ça durerait pas trop longtemps. Et en fait, ça a été le cas puisqu'ils ont passé tout de suite à TVOS. Ouais. Donc, le système qui équipe l'Apple TV. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plu dans... Il y avait 4-5 nouveautés. Qu'est-ce que t'as retenu?
Dans l'Apple TVOS, c'est vraiment le système qui équipe les TV, le petit boîtier d'Apple Télé. Ce que j'ai retenu, c'est le support multi-usager qui est vraiment chouette. Typiquement, ouais, vous allez pouvoir switcher d'une personne à une autre. Ce qu'on lit présentement dans les premiers testeurs développeurs qui l'ont, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre de mot de passe en switchant d'un compte à un autre. Par contre, ça ne changerait pas, sous toute réserve encore, ça ne changerait pas les types de comptes que vous avez connectés. Typiquement, si vous avez un Netflix sur un compte, vous allez avoir l'autre Netflix sur le même compte. Faudra aller dans le Netflix pour switcher le profil de la personne. Alors, c'est comme deux étapes, je trouve, un petit peu déplaisantes, mais peut-être que c'est l'implémentation de Netflix par rapport à TVOS. C'était ça qui a retenu mon attention, puis le fait aussi, vraiment, ça va être une console de jeu, parce qu'on sait, dès l'automne ou début de l'hiver, il devrait avoir Apple Arcade, qui est la plateforme de jeu, tout compris d'Apple, qui va supporter les manettes de jeu de Xbox, de PS4. Et ben, il y a pas eu beaucoup de grosses annonces de jeux, mais pour le moment, ça a l'air assez chouette ce qui s'en vient pour le support
ouais,
de ça.
Ouais, c'est ça. En fait, ce qui est vraiment énorme, c'est le support des manettes. Donc, c'est pas des manettes Apple ou c'est pas des manettes. Voilà, ils se disent, ok, les meilleures manettes existent déjà, donc on les rend compatibles avec notre Apple TV. Et ça, c'est vraiment une marque d'intelligence puisque au final, les manettes Xbox ou PlayStation que les gens ont déjà chez eux, enfin, c'est des versions Bluetooth, donc les dernières versions, seront compatibles avec l'Apple TV et avec les appareils iOS. Donc ça va être... je trouve que c'est vraiment une super bonne nouvelle.
Absolument. On va switcher vite sur les nouveautés au niveau de la montre. Est-ce que tu as une montre, Audrey, une Apple Watch?
Non, je n'ai pas d'Apple Watch, je fais de la résistance.
Ah, ok, on va parler aussi d'un autre projet sur lequel tu fais un petit peu de résistance, mais que tu vas peut-être aimer plus tard. Bon, alors WatchOS, des nouveaux cadrans, va y avoir la possibilité qui est le tracking des cycles menstruels directement intégré dans la montre. Des apps indépendantes vont pouvoir s'y connecter avec du streaming d'API. Ça, c'est plus pour les développeurs, ce que je dis là.
Un App Store ouais. indépendant.
Exactement. Alors, c'est ça la nouveauté, c'est que vous allez pouvoir, à partir de la Watch maintenant, ajouter des applications sans passer par le téléphone. On remarque que l'Apple Watch commence à être grande toute seule et à être autonome. Je sais pas, dans 3-4 ans, si on aura vraiment plus besoin d'un iPhone pour avoir une Apple Watch. Mais c'est vraiment chouette de voir ça. Bon, moi, étant utilisateur d'Apple Watch, j'ai pas vraiment d'applications complémentaires en dehors de ce qui est offert par l'écosystème Apple, mais j'attends de voir. C'est vrai que c'est peut-être à cause de ça que j'en installe pas, parce que faut que je passe par mon téléphone, puis j'y pense pas tout le temps quand je suis sur ma montre d'aller sur mon téléphone. C'est pas tout à fait naturel. Fait que là, on a un cycle un peu plus naturel d'installer une application à partir du device. Oui.
Oui, c'est ça. Et puis là, il me semble, d'après les retours que j'ai lus, que si on utilise l'Apple Watch sans le lien qu'elle a avec l'iPhone, c'est-à-dire que l'autonomie ne suit pas. En fait, je crois qu'elle doit tenir 2 heures si on n'utilise que des fonctionnalités qui ne sont pas en lien avec l'iPhone. Enfin, il y a un truc comme ça. Donc, je pense que niveau autonomie, il y a encore besoin de l'iPhone pour fonctionner. Alors peut-être que je dis une grosse bêtise, mais j'ai vu ça sur Twitter, donc je me suis dit c'était pas bête comme remarque. Faudra qu'on vérifie ça. Et le truc génial aussi qu'ils ont présenté, donc je n'ai pas d'Apple Watch, mais c'est le détecteur de nuisances sonores.
Oui, oui. Alors j'ai été invité à l'émission Tech Café avec Guillaume Vendée et Léo Doff, et on en a parlé justement de cette application, en fait, pour la santé des oreilles, on va dire ça comme ça. C'est une application directement à la montre qui vous donne le nombre de décibels auquel vous êtes confronté, et auquel cas, quand vous avez trop de décibels, il va vous avertir, va faire une petite alarme à partir de votre montre. Alors, c'est en lien totalement avec la santé auditive des gens. Dès que c'est trop fort, on vous avertit que c'est pas bon pour vos oreilles, c'est très bien. J'ai mis en lien une étude du Canada qui dit que une personne sur deux de moins de 25 ans souffrait d'acouphènes. Selon les médecins, c'est directement relié aux écouteurs. Alors, j'avais une réaction dans Tech Café qui disait ça aurait été bien de pouvoir relier ça aux AirPods, parce que dans les faits, les AirPods, c'est pas vraiment des écouteurs bien adaptés pour le son, parce que ils sont assez universels. Ce faisant, on est obligé d'augmenter le bruit, en fait le volume des écouteurs dans les AirPods ou dans les AirPods de court. La façon qu'ils sont faits, c'est que ça, il y a aucune isolation active ou passive du son, ce qui fait qu'on est toujours obligé d'augmenter le son, ce qui fait qu'on brise nos oreilles. Alors j'avais dit, ça aurait été bien qu'Apple pense à avoir ça. Et directement dans les tweets, dans les commentaires de l'émission, il y a eu des premiers développeurs qui ont confirmé qu'Apple a ajouté justement cette fonctionnalité là. Alors, quand vous avez des AirPods ou des AirPods dans les oreilles, automatiquement, il va être capable de calculer la quantité de décibels et vous faire les mêmes avertissements que le bruit ambiant. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment chouette. Ça continue à améliorer au niveau de la santé générale des gens. Au niveau des cycles menstruels, je peux pas vraiment trop parler, mais c'est du genre d'application que t'aimes avoir ou que tu utilises, toi, Audrey?
Non, c'est pas une application, c'est pas le genre d'application que j'utilise, mais je pense que les femmes utilisent ça soit parce qu'elles ont des problèmes de règles irrégulières ou alors parce qu'elles veulent avoir un enfant. Je pense que c'est vraiment plus dans ce but-là. Donc en fait, c'est bien pour celles qui en ont besoin. C'est intéressant. Après, tu vois, ces deux choses-là, le cycle menstruel et le niveau la nuisance sonore, je me demande, tu vois, si tu te projettes dans 2 ou 3 générations, ouais. Est-ce que l'humain va encore être capable de se dire « Ah, là, j'ai entendu bruit, c'est trop fort ». Tu vois, souvent, je me dis jusqu'où, en fait, les machines vont avoir des réflexes avant nous, enfin, avoir, tu vois, des détecteurs. Et je trouve ça hyper intéressant qu'Apple se penche sur la santé. J'espère juste qu'on va pas oublier un peu nos réflexes primaires à se dire « Oh là là, je reste pas là, il y a trop de bruit » ou « Ah, j'ai mal au ventre, comment ça se fait ?» Ah oui, c'est vrai. Bah, tu vois.
Ouais.
Souvent, quand ils ont présenté ça, j'y ai pensé direct, quoi. Je me suis dit, mais est-ce qu'on va un jour, est-ce que ça va dévier vers le fait qu'on ressente plus grand-chose, quoi, ou qu'on sache plus analyser ce qui se passe.
C'est drôle que t'en parles, parce que ce matin, un article de Numérama qui riait un peu de la télésérie Black Mirror, qui est vraiment en lien avec les dérives technologiques qui pourraient arriver. Et ils ont relayé sur le site de Numérama, des vidéos humoristiques, c'est fait par College Humor, qui faisait une parodie de Black Mirror, mais si ça s'était passé au Moyen-Âge. Et puis là, on voit des gens expliquer que le livre va faire que les gens ne regarderont plus dehors et seront toujours captivés par les livres. Tu sais, ils mettaient ça en perspective. On a toujours une petite crainte, je pense, avec les nouveautés technologiques. Moi, je me souviens plus d'aucun numéro de téléphone. Je sais pas toi, mais moi, je me souviens d'aucun numéro de téléphone. Et finalement, je m'en porte pas plus mal. Il y a des choses qui changent. Il y a l'humain qui s'adapte à travers ça. Mais c'est vrai, c'est intéressant de regarder avec du recul ce que ça pourrait faire par rapport au bruit. Je veux pas croire que les gens font « Ah, ben, je vais attendre d'avoir une alerte puis de continuer à me faire tabasser les oreilles. » Je veux, tu sais, c'est quand même douloureux.
Ouais, je projetais assez loin, hein, 2-3 générations. Hein.
Ouais, effectivement.
Mais bon, oui, Black Mirror, en fait, pour moi, c'est de l'anticipation. Hein. Enfin, j'espère que ça va pas dériver là-dessus, mais c'est même pas de la science-fiction, c'est de l'anticipation. Ouais. Mais j'adore cette série, donc je suis toujours épatée de la projection qu'ils peuvent faire dans un avenir parfois pas si lointain.
On va switcher on a fait tvOS, on a fait watchOS, iOS, évidemment, quand c'est pour les développeurs, il y a toutes sortes d'améliorations sur le nouveau système d'exploitation des iPhones. C'est bien important de spécifier le iOS, c'est pour les iPhones maintenant uniquement.
Eh oui.
iOS est plus rapide pour déloquer le Unlock Face ID de 30%. Il est plus petit pour les applications. Ça va être beaucoup plus vite à intégrer. Il y a plein de petites nouveautés par-ci, par-là, bien dispersées sur les messages avec les avatars. Est-ce que tu as aimé maintenant que toi, tu as un iPhone XR? J'imagine que tu vas pouvoir emmieuter ton avatar d'Apple.
Ça reste du un peu du folklore, mais c'est toujours sympa d'avoir des petits accessoires en plus, où je sais plus, il y avait du maquillage ou je sais plus, mais en tout cas ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir créer des stickers à partir de notre Memoji. Mais même les gens qui n'ont pas d'iPhone de dernière génération vont pouvoir créer leur propre Memoji, si tu veux, un peu à l'ancienne, c'est-à-dire tu choisis la forme de ton visage, ça sera pas directement basé sur ton visage, mais tu vas pouvoir créer tes propres stickers, même si tu as un iPhone 6, 7 ou... Enfin, 6S, 7, 8, etc. Donc ça, je trouvais ça sympa qu'ils pensent aussi aux gens qui n'ont pas les tout derniers iPhones.
Alors ça, c'est la partie drôle. La partie qui m'a beaucoup surpris, le wow effect, je trouve, de cette conférence-là, qui a une incidence incroyable, je pense, pour tout ce qui est protection des renseignements personnels et ainsi de suite. Sign in with Apple, on peut maintenant se connecter automatiquement avec notre compte utilisateur Apple dans les services, les applications qui seront directement dans iOS. Vous voyez, des fois, on a un bouton « Vous connectez avec le compte Google+, vous connectez avec Facebook », ben là, automatiquement, il va y avoir un bouton. C'est une réglementation que Apple va imposer aux développeurs. Lorsqu'il y a ces boutons-là d'accès rapide, de connexion rapide à des applications, vous serez obligé, en premier lieu, de mettre le « Sign in with Apple ». Qu'est-ce que ça fait « Sign in with Apple » C'est que ça vous connecte directement avec votre compte Apple, mais aussi ce que ça fait, c'est que ça protège votre identité à travers plusieurs petites fonctionnalités. Exemple, ne pas divulguer votre nom, prénom au service tiers sur lequel vous vous connectez. Exemple, avoir une adresse de email jetable. C'est une nouveauté aussi au niveau d'Apple. Alors, vraiment, vraiment chouette. Est-ce que tu as le même ressenti que moi par rapport à Sign In with Apple? C'est comme le feature, la nouveauté que personne n'attendait, mais que finalement, on se dit, mon Dieu, c'est tellement intelligent.
C'est clair qu'en fait, moi, quand je vois des... C'est un truc que j'utilise jamais, c'est-à-dire j'installe une application, ils me disent, ils créent un compte. Donc, soit on crée un compte à partir d'une adresse mail et un mot de passe qu'on choisit, soit on se connecte directement avec son compte Google ou Facebook. Moi, je crée toujours un compte à part. C'est-à-dire que j'aime pas me connecter avec des... Enfin, j'aime pas mélanger les services, si tu veux, parce que je préfère me dire, le jour où j'en ai marre de Facebook, je m'en vais et j'ai pas envie que toutes mes connexions soient bloquées à cause de ça.
Exact.
Donc, c'est vrai que là, je me suis dit, ben, ils y vont fort. Enfin, au niveau... parce qu'à part Google et Facebook, ben, y a pas grand monde qui a osé mettre le pied dans ce genre de service, parce qu'encore une fois, ça reste un service. Et oui, ce qui est génial, c'est que ça nous génère une adresse mail qu'on verra pas, hein, on devra pas s'en occuper, une adresse mail jetable, en fait, pour différente pour chaque service, ce qui veut dire que notre boîte mail ne sera pas remplie d'indésirables, puisqu'en fait, ils n'auront pas notre vraie adresse. Et ça, c'est... Mais oui, bien évidemment, on s'y attendait pas du tout, et c'est vraiment au niveau de la... Ça va simplifier beaucoup de choses, je pense, pour les gens. Et après, ben, en fait, c'est un peu toujours pareil, quoi. Tu choisis où tu mets tes petits cailloux. Soit tu les mets chez Google, soit chez Apple, ou soit chez Facebook. Mais au moins maintenant, on a Apple qui est dans la boucle. Donc, je trouve ça vraiment très très bien. Merci Apple.
Ouais, effectivement. Et moi, ce qui me surprend, c'est d'obliger les développeurs à, pour ceux qui l'utilisent, à mettre ce bouton-là, et en plus, dans la réglementation qu'ils imposent aux développeurs, c'est de le mettre en premier. Je trouve ça intrusif, mais pour le bien des utilisateurs, je sais pas si un développeur, être développeur d'une application, je sais pas si j'aimerais ça. On sait aussi que Sign In with Apple va être disponible pour les sites web aussi. Alors, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir cette implémentation-là un peu partout se démocratiser, parce que c'est vrai que je fais beaucoup plus confiance à... Et là, j'exclus toutes les théories du complot, là, mais je fais quand même beaucoup plus confiance à Apple pour les données personnelles, parce que c'est leur... Maintenant, c'est leur champ de compétences, et c'est leur champ de vente, en fait, qu'un Facebook connecte.
Mmh. Ouais, moi, clairement aussi. Franchement, je me pose même pas la question, et je pense que c'est vraiment dans le... Enfin, c'est rentré dans l'ADN de la société de protéger nos données. Et enfin, ils en parlent tout le temps maintenant, et je pense que ça devient vraiment un... Comme si t'avais un label, en fait... De bienveillance, en fait, c'est parce que au final, même si ça reste du business, c'est quand même de la bienveillance envers leurs clients et envers les utilisateurs, quoi.
Ouais, absolument. Je veux juste me permettre un aparté, parce que hier, Tim Cook, on est le 17 juin. Hier, le 16, Tim Cook a fait une apparition à Stanford, où il a fait une, vous savez, un peu comme Steve Jobs avait fait il y a une dizaine d'années, un hommage ou un discours face à des nouveaux finissants. Et il a vraiment martelé l'idée de tout ce qui est données personnelles. C'est vraiment super sensible pour lui. Et j'ai juste relayé 2-3 phrases, là, qui sont vraiment en lien par rapport aux données personnelles, qui sont cohérentes avec Singing with Apple. Il a dit, les entreprises ne peuvent plus esquiver la responsabilité du chaos qu'ils ont créé. Nous voyons tous les jours maintenant des violations de données, des violations de vie privée. Et puis il faisait évidemment à des références à des Facebook, à des Google, mais à toute autre entreprise. Un trop grand nombre semble penser que c'est les bonnes intentions excusent de loin les résultats néfastes, mais que vous le vouliez ou non, ce que vous construisez et ce que vous créez définit ce que vous êtes. Alors vraiment, là, il martèle une dernière phrase, si nous acceptons comme normal et inévitable que toutes nos vies peuvent être agrégées, vendues ou même en cas de fuite hackées, nous perdons tellement plus que les données, nous perdons la liberté d'être humain. Ouais. C'est dur, puis c'est lourd de sens par rapport à ce qu'ils veulent faire au niveau de leur vente et des données personnelles chez Apple.
Ouais, on pourrait appliquer ça à plein de choses, plein de sujets récemment qui ont fait écho. Et oui, mais évidemment. Enfin, en tout cas, j'espère qu'ils vont rester dans cette optique. C'est bien parti pour. Et je pense que ça va être un nouvel Eldorado pour les sociétés de nous promettre mais rien que nos adresses mail. Tu vois, je voyais encore un reportage hier. Une adresse mail, ça se revend 40 centimes. Donc, si on se dit, il y a une entreprise qui récolte 20 000 adresses mail, et ben, ça fait tout de suite pas mal d'argent. Donc il faut vraiment faire hyper attention à qui on fournit des données aujourd'hui, quoi.
Absolument.
Parce que c'est un business.
Absolument. Au niveau des AirPods, bon, on va pouvoir maintenant avoir les messages de Siri directement dans ses oreilles quand quelqu'un vous appelle. On va, exemple, vous êtes en train de faire une activité sportive, c'est ce qu'on voyait dans la vidéo, une personne qui fait du vélo, automatiquement elle reçoit un message et automatiquement elle entend le message sans lui demander à Siri ce qui est de lire ce dernier message, en fait. Au niveau contextuel, ça peut être intéressant. Moi, j'ai peur parce que j'ai souvent mes AirPods sur mes oreilles sans forcément qu'ils fonctionnent. Et j'ai peur qu'en pleine discussion, je reçois un SMS. J'ai vraiment la crainte par rapport à cette fonctionnalité-là. J'imagine qu'on peut l'activer ou la désactiver, mais j'ai vraiment la crainte d'être encore plus interrompu que des notifications. Si en plus, maintenant, au niveau audio, je commence à être interrompu par des SMS, ça commence à être un petit peu inquiétant.
Faudra que tu actives ne pas déranger, je pense.
Ça semble logique.
Sinon, il y avait aussi dans Photo, ils vont enfin... Donc, il y a une nouvelle version de l'application Photo. Et on va enfin pouvoir trier nos photos par année, mois, jour. Et ça semble être un détail, mais alors le moi je qui forme des gens, c'est très compliqué de leur expliquer année, moment, enfin année, collection et moment, parce que alors je leur dis bon c'est année, mois, jour, hein, ça fait un an que je leur dis, mais là ça va être enfin écrit noir sur blanc, donc tant mieux, je suis contente. Et puis j'avais aussi noté que il y a une nouvelle version de rappel qui va vraiment faire un énorme bond en avant, donc ça c'est vraiment cool. Il y a encore plein de petites choses dans notes qui vont être améliorées. Donc voilà, iOS 13, ça va être un peu est-ce qu'on dit que c'est la version de la maturité un peu? Ou l'écoute des utilisateurs? Je pense qu'on peut dire ça, non?
Ben oui, d'autant plus qu'ils ont implémenté le dark mode. Maintenant, vous allez avoir une version d'iOS plus noire, plus sombre, qui pour les téléphones qui ont les écrans qui sont sensibles à ça, ben va permettre d'économiser au niveau de la batterie. Il va y avoir aussi une nouvelle fonctionnalité concernant la recharge des batteries, un peu plus intelligente, avec on va dire entre guillemets un peu d'intelligence artificielle qui fait que ben quand une batterie est entre 20 et 80%, c'est le moment de la recharger. Si vous rechargez tout le temps une batterie, même au lithium-ion, à 100%, et puis que ça redescend, ça peut nuire à long terme sur la batterie. Alors là, l'intelligence va vérifier à ce que la batterie soit toujours entre 20 et 80% toute la nuit et va vous la booster jusqu'à 100% quand elle va connaître votre heure de réveil. Après quelques jours d'habitude, elle va être en mesure de le faire et va vous recharger au complet votre iPhone. Je trouve ça bien. Oui, maturité, mais ça a été dans toute la conférence où on voit que il y a pas eu, à part Signin with Apple, pour moi là, il y a pas eu de grosses affaires, mais il y a eu plein de choses qu'on fait. Ben oui, c'est ce qu'on voulait. Ah ben oui,
ouais,
c'est aussi
ça,
je voulais ça.
On va en parler, mais il y a quand même iPadOS qui est arrivé. Ouais. Moi, j'avais aucune idée. En plus, je lis pas les rumeurs, donc j'étais complètement la bouche bée devant ce nouveau système, hein, puisque du coup l'iPad a son propre système. Mais globalement, je pense que on est tous hyper enthousiastes de cette conférence, parce que on a l'impression que ça y est, Apple a entendu les critiques, les choses qu'on attend depuis des années, tu vois. C'est pour ça que je parlais de maturité et de au moins de l'écoute des utilisateurs, parce qu'on a l'impression qu'ils ont fait rentrer 50 personnes à Cupertino, là, 50 utilisateurs d'iPhone, et ils ont dit, bon, qu'est-ce que vous voulez?
Parmi les nouveautés, puis toi qui es formatrice, j'imagine que le fait que maintenant iOS et iPadOS puissent recevoir des clés USB directement, puis de fouiller dans les clés USB, j'imagine que c'était des choses qu'on te demandait, toi, dans tes formations.
Ouais, il y a plein de gens qui... Alors, bizarrement, les gens les plus critiques envers Apple mettaient cet argument-là en avant. Moi, j'ai jamais eu le besoin de brancher une clé USB sur mon iPhone, par exemple. Je n'ai pas d'iPad, mais en tout cas, c'est sûr que sur l'iPad, c'est vraiment quelque chose de bienvenu et qui était demandé, de toute façon, par beaucoup de monde. On a tous des besoins différents, donc après, il était vraiment temps que ça arrive, quoi. Comme sur les autres tablettes des concurrents, quoi.
Alors, le multitâche est vraiment, on a renforcé encore plus le multitâche dans iPadOS, qui est le nouveau système d'exploitation pour les iPads seulement. Alors, vous allez avoir de nouveaux gestes pour des copier-coller. Vous allez avoir, enfin, je le disais dans l'émission Tech Café, mais je suis vraiment content que la fonction annuler, le dernier geste, c'est plus juste de secouer bêtement ton iPad, là, c'est trois doigts vers en arrière, et puis tu peux faire une espèce l'équivalent d'un CTRL-Z ou d'un COMMAND-Z. Le clavier qui va permettre de se mettre un petit peu plus petit sur le coin du iPad. Pour ceux qui tiennent l'iPad à une main, ils vont être capables à un pouce comme sur le iPhone. En fait, vous allez avoir le clavier du iPhone directement dans l'iPad et vous allez pouvoir écrire des choses un peu plus rapidement juste avec un pouce quand des fois les usages le permettent.
C'est surtout que tu vas pouvoir faire glisser ton doigt. Oui. Sans le décoller de l'écran sur ce petit clavier pour écrire en passant d'une lettre à une autre sans lever ton doigt. Donc logiquement, enfin apparemment on écrit plus vite. J'ai hâte d'essayer parce que ça peut être intéressant.
Ouais, absolument. Des nouveaux gestes avec les doigts, des espèces de copier-coller un peu plus naturels. Un imprime écran qui a attiré mon attention quand on fait un espèce de print screen avec le iPad, là, on, dans le fond, on maintient deux doigts, ça fait un imprime écran, puis on peut, toi qui connais très bien capture d'écran, après ça, on peut le modifier. Mais là, il y a un imprime écran avec un stylo où vous partez du coin gauche ou du coin droit pour faire un imprime écran et vous pouvez faire juste l'imprime écran de ce que vous voyez à l'écran, mais vous pouvez aussi faire une page web, un site entière, web entier. Et ça, j'ai fait, tu vois, c'est vraiment une fonctionnalité des fois qui est super intéressante à avoir, puis on n'a jamais pu faire ça sur iOS. Je trouvais ça vraiment cool.
Ouais, moi aussi je l'avais tweeté ça parce que je trouvais ça vraiment. Ça fait quelques jours déjà, donc j'ai un peu oublié les détails, mais c'est vrai qu'on pouvait avec le pencil, on a des nouveaux gestes et du coup oui, on peut faire une capture d'écran avec un geste, simplement un geste, donc sans utiliser les boutons. Et c'est vrai que le fait de capturer toute une page web entière au lieu de juste qui s'affiche à l'écran, c'est vraiment intéressant.
On passe. Avais-tu d'autres choses à rajouter pour iPadOS, Audrey?
Oui, il y a un gestionnaire de police maintenant qui est intégré, donc ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Et puis, qu'est-ce que j'avais ? L'évolution surtout de l'application fichier, donc ça, je l'attendais de pied ferme. Et donc, je suis vraiment très contente qu'on ait un mini explorateur de fichiers, mais quand même beaucoup plus évolué que la version actuelle. Donc tout ça sera disponible à la rentrée. C'est ça. Hein?
Ouais, exactement. Un dernier truc, c'est que le navigateur internet de iPadOS va vous permettre de voir les pages directement comme si vous étiez à un ordinateur. Il y a certains sites qui, de la minute que vous êtes un iPad ou vous êtes un iPhone, vous affichent un contenu adapté à votre appareil.
Mobile, ouais.
Mais là, vous allez pouvoir dire à votre Safari, affiche-moi comme si c'était un ordinateur normal. Alors, typiquement pour les iPad Pro qui ont des plus gros écrans, ça va vraiment être intéressant parce que vous allez pouvoir voir le site comme vous le voyez sur un PC. Et des fois, il y a des fonctionnalités que vous perdez quand vous êtes en mode touch parce que les développeurs web font pas bien leur truc.
Alors, sur ce point-là, j'avais fait un tuto vidéo là-dessus. On peut déjà... Quand tu ouvres une page web, si tu es sur ton iPhone ou ton iPad, en effet, c'est la version mobile qui s'active par défaut. Mais si tu appuies sur le bouton partage, tu as une option version ordinateur du site. Donc, tu peux déjà, ça depuis longtemps, afficher le site tel qu'il est sur un ordinateur, mais il faut faire cette action. Donc là, en fait, c'est l'inverse qui va se passer, c'est-à-dire que ça sera la version de bureau du site web qui s'affichera et pas la version mobile. Mais on peut depuis longtemps accéder à la version ordinateur d'un site depuis un iPhone ou un iPad. Ça existe, mais c'est dans les options, donc il faut le savoir.
Bref, beaucoup de trucs, effectivement, disponibles à l'automne. Pour ceux qui sont un peu plus tentés, si vous êtes développeur, vous pouvez le faire, mais moi, je vous recommanderais pas de faire ça sur un appareil que vous utilisez tous les jours. Et vous pouvez attendre la bêta qui va être publique, qui devrait arriver dans le courant du mois de juillet. Attendez quand même. Si vous avez pas d'appareil autre que vos appareils personnels, attendez à l'automne.
Oui, évidemment, oui. Ouais, mais j'ai râlé un peu à ce sujet-là parce que je vois tellement de gens qui ont des problèmes avec leurs iPhones parce qu'ils ont installé iOS 13 qui est actuellement réservé aux développeurs, que bon, c'est un peu, il y en a des gens, hein. Moi je suis pas mal de gens sur sur des groupes Facebook dédiés à Apple ou sur Twitter et tout ça, et c'est vrai que ça râle beaucoup. Alors à un moment on a envie de dire mais c'est pas fait pour le grand public encore, cette version là on est en bêta, donc une bêta c'est fait, ça a des bugs, c'est normal, c'est pour les développeurs, et puis au moins attendre la bêta publique de juillet qui elle sera stabilisée. Et sinon ben si c'est sûr que si vous avez qu'un iPhone, bah attendez par sécurité le mois de septembre octobre pour installer la version finale.
On va aller dans ce que tu aimes beaucoup, toi, Audrey, macOS, et avec une nouvelle version qui va s'appeler cette fois-ci Catalina. Qu'as-tu retenu qui mérite la peine d'en discuter?
Eh ben écoute, la fonction qui m'a le plus plu, c'est Sidecar. Donc ça permet de connecter avec ou sans fil son iPad à son Mac pour avoir un... On transforme son iPad en écran secondaire, ce qui fait qu'en fait, on rend le Mac un petit peu tactile. Parce que par exemple, si on fait du dessin ou si on veut faire des notes dans l'application Notes sur le Mac, ou voilà, on peut du coup coupler son iPad et son Mac pour avoir une extension comme ça d'écran, et ensuite avoir ben, le tactile en fait sur le Mac, sur l'écran de l'iPad, mais à travers le Mac. Donc ça, c'est un truc que j'ai vraiment hâte d'essayer. Donc ben il faut un iPad pour ça, mais bon, ça va peut-être venir. Et après il y a plein de choses qui bon après le problème c'est que je macOS Catalina, donc c'est la prochaine version du système, ils ont fait 10 minutes dessus quoi. Ça a été assez rapide. Alors bien sûr, ça vous avez déjà entendu certainement qu'iTunes vit ces derniers jours hein, parce que il va être démantelé en plusieurs applications, donc c'est pas plus mal. Et puis après, je pense qu'il y a plein de nouveautés. J'avais noté dans Safari, dans Photo, dans Notes, dans Rappel, dans Mail aussi. J'ai vu ça. Ça commence à arriver les petites infos là-dessus. Donc peut-être que si on a, alors maintenant normalement c'est en mars la conférence sur les Mac. Donc je sais pas en fait s'ils vont refaire une présentation de Catalina à la rentrée. Je sais pas. Bon, ça sera beaucoup moins chargé de nouveautés que iOS et iPadOS, mais ça sera bien d'avoir une nouvelle version quand même, bien sûr.
Ouais, j'ai vraiment eu la sensation pendant toute la conférence que tout ce qui était iOS a été relégué, ou iPhone, on va dire ça comme ça, et d'ailleurs il y a eu un article de Numérama qui le disait, tout ce qui était discussion autour de l'iPhone a été beaucoup plus tassé que les autres années pour faire place à iPadOS, pour faire place à macOS, pour faire place à tout l'écosystème d'Apple. J'ai vraiment apprécié ça, puis comme je le disais, ben j'ai été agréablement surpris. En termes de surprise, à la fin de cette conférence-là, qui est destinée aux développeurs et qui est plus en lien avec du logiciel, on a eu la surprise d'avoir un nouveau Mac Pro, qui est une application destinée aux professionnels, comme son nom l'indique, mais c'est un peu controversé sur plein d'aspects. Peux-tu nous en parler un peu, Audrey?
Oui. Alors le Mac Pro, donc ce n'est pas une application, tu as fait un petit bug.
Désolé, oui.
Mais c'est la fatigue, hein, comme on le disait au début. Moi aussi, je vais certainement dire veuillez nous excuser. L'année se termine et il est temps que les vacances arrivent. Oui. Alors ouais, le Mac Pro, en fait, donc je voulais faire un petit rappel des deux modèles qui ont précédé celui qui vient de sortir. Donc le Mac Pro, en fait, il est sorti, le tout premier Mac Pro, en 2006. Et c'était une année assez importante pour Apple puisqu'elle a passé tous ses Macs sous processeur Intel. Donc on a dit adieu au G3, G4, G5 de Motorola. Hein. Ça a été un gros changement pour Apple puisque même en termes de logiciel, il a fallu recompiler tout ça. Enfin, ça a été une grosse étape qu'ils ont réussi quand même, on peut le dire.
Ouais.
Même si là, à Intel stagne un peu. Il y a quand même, ça fait quand même depuis 2006 que ça dure. Donc il y a 13 ans, ils ont présenté le premier Mac Pro. Donc c'était une machine au format tour, hein, comme un PC en fait de bureau. Hein. Donc c'est une tour qu'on met sous le bureau, qu'on doit connecter à un écran. Donc le Mac Pro, il était, contrairement à ses prédécesseurs, on va dire, c'est un héritier des Power Mac G3, G4, il était tout en aluminium. Donc ça a été le premier Mac tout en alu. Puisqu'avant, on était encore dans l'ère du plastique bicolore avec les Power Mac G4, G3. Et après, le G5, il était en plastique, mais gris argenté. Il était beau aussi, celui-là. Donc, en fait, à l'intérieur... Moi, j'ai eu un Mac Pro en 2007. Je me suis Enfin, j'avais fait un prêt à l'époque pour l'acheter parce que c'était quand même 2500 euros.
Ouais.
Mais j'avais lancé un site de montage, enfin de tutoriel vidéo, mon premier site que j'avais fait, et il me fallait pas mal de puissance pour encoder tout ça. Donc c'est sûr que 2500 euros c'est un gros budget, mais il m'a duré quand même assez longtemps. Et c'était une machine. Écoute, moi j'ai vu, quand j'ai fait mes études d'informatique, j'ai vu des PC, même de très grandes marques. Et en fait, une fois que tu ouvrais le PC, c'était moche à l'intérieur.
Ouais.
T'avais des fils partout, ah ouais, et tout. Enfin, c'était, ouais, je pense que t'en as vu aussi. Tu te souviens, ouais, c'était affreux, quoi.
Ouais, ouais. Bah,
et là, le Mac Pro, ouais, pardon.
Non, mais c'est ça, c'est en lien avec la philosophie de Steve Jobs, là, quand il avait fait ses premiers cartes mères avec Steve Wozniak, de toujours bien aligner les puces. Il y avait souci du détail, même dans le produit.
Ouais.
Et puis effectivement, quand on ouvrait une tour IBM à côté d'un Mac Pro, ben, on avait de la peine parce que les deux coûtaient cher, mais il y en avait un qui était beau aussi en dedans.
Ouais, le Mac Pro, le tout premier, donc, qui est sorti en 2006, il était vraiment magnifique avec, il y avait, donc, c'était le premier aussi Mac à être équipé d'un processeur Intel Xeon. Donc, c'est le plus puissant, on va dire, des processeurs. À l'époque, la mémoire vive pouvait monter jusqu'à 16 gigaoctets. Donc, en 2006, c'était déjà pas mal. Puisque pour info, en 2006, on était à 2 ou 3 gigaoctets ou 4 gigaoctets. Enfin, donc, 16, ça nous paraissait énorme. C'est ce qu'on a à peu près tous maintenant, mais bon, on a encore des ordinateurs avec 8 gigaoctets et ça tourne très bien.
Mmh.
Et puis, il y avait 4 emplacements pour des disques durs, il y avait des slots pour les cartes vidéo, enfin, on pouvait ajouter vraiment plein de trucs, quoi. C'était vraiment un Mac évolutif, hyper solide, hein, parce que c'était un gros bébé de 20 kilos, même ouais, si on donnait un coup de pied dedans sous le bureau, il chouinait pas, hein, on était vraiment à l'abri. Et puis, le fait qu'ils soient en alu, bah, il y avait un bon refroidissement, enfin, tout, c'était vraiment une très belle machine.
Excellent.
Donc, dans les notes de l'émission, je mettrai les liens vers les présentations de ce modèle-là. Et puis, Apple a mis à jour ce Mac Pro jusqu'en 2013. Donc, il a quand même bien vécu. Il y a eu quasiment une mise à jour par an jusqu'en 2013. Et puis là, eh ben, on sait pas trop ce qui s'est passé. Apple a sorti un nouveau Mac Pro à 3000 euros entrée de gamme, donc un peu plus cher. 3000 ou 4000 euros, je sais plus exactement. Et en fait, c'était, je sais pas si tu l'as déjà utilisé, celui-là, c'était un Mac Pro à mettre sur le bureau, et il était beaucoup plus petit que le Mac Pro d'avant. Et c'était une espèce de d'urne noire, comme ça, comme un cylindre.
T'es gentil avec l'urne.
Ouais, parce que j'ai pas mis de poubelle.
C'est ça.
Non, parce que franchement, je l'ai vu encore il y a pas longtemps chez un client, et même si on dit qu'il ressemble à une poubelle, moi je le trouve quand même toujours aussi beau. Bon, après, voilà, c'est un peu mon côté fangirl d'Apple, mais en tout cas, c'était un modèle beaucoup plus petit, et pour cause, puisque en fait, les disques durs à plateau, ben c'était fini.
Mm-hmm.
On est passé au disque SSD, donc au stockage flash. On n'avait plus de lecteur CD DVD. Et donc c'était vraiment une prouesse technologique quand même. Il avait été, en fait, on aurait dit un peu une création d'un savant fou, quoi. Tu vois, on n'avait jamais vu un ordinateur comme ça, quoi. C'était
au niveau format,
c'était exceptionnel.
Ouais, au niveau format, on est passé, si vous voulez, d'un Renault Espace à une Renault Clio. C'est au niveau évolution à l'interne, c'était un peu limité aussi.
Oui, c'est ça. En fait, le problème, c'est qu'il y a eu qu'un seul modèle. Donc en 2013, ils nous sortent ça. En niveau stockage, donc on avait 256 gigas de SSD. Bon, ça, chez Apple, on est toujours dans la même problématique. Mais au niveau de la mémoire vive, par exemple, vous pouvez monter jusqu'à 64 gigas.
Mmh.
Officiellement et non officiellement, aujourd'hui, il peut encaisser 128 gigaoctets de RAM, hein, de mémoire vive. Donc c'est énorme. Donc il est évolutif, mais Apple ne l'a jamais fait elle-même évoluer et n'a jamais proposé des solutions pour le faire évoluer. Donc voilà. Et donc depuis 2013, ben il s'est rien passé jusqu'à
ben, la dernière conférence, à quelques jours, où ben on a eu le droit à un nouveau Mac Pro. On parle beaucoup de son design. Ce qui a retenu l'attention, c'est le fait de son prix, évidemment, ses oui, capacités et l'écran qui l'accompagne. Est-ce que tu peux nous résumer un peu cette grosse bestiole?
Ouais, donc en fait c'est un Mac Pro qui reprend le format du tout premier, donc c'est une tour, hein, elle sera certainement plus petite que le premier Mac Pro, mais bon, c'est une tour qu'on met sur le bureau ou sous le bureau, qui aura des petites roulettes en plus. comme disait Guillaume, Guillaume Jette, on n'a pas encore le prix des roulettes, mais on va rigoler. Mais en tout cas, c'est un format tour, à nouveau extensible, mais là, enfin, je veux dire, les capacités techniques de cette machine sont dingues, puisqu'il est deux fois plus puissant que l'iMac Pro. Alors que l'iMac Pro, actuellement, est le Mac le plus puissant, donc vous imaginez... Si le nouveau Mac Pro est deux fois plus puissant que celui-là, bon, ça veut dire beaucoup. Et clairement, en fait, il est vraiment réservé aux professionnels de la vidéo. C'est-à-dire que
musique déjà, aussi. Musique, quand ils ont fait leur présentation, il y avait beaucoup de, il y avait un Mac Pro.
Tous ceux qui ont besoin d'encoder, quoi.
Ouais, c'est ça, exact.
Parce qu'en fait, je vous ai pas dit, mais il coûte quand même 6 000 euros. Donc là, c'est clair que le commun des mortels ne se l'achètera pas. Et puis, il n'y a vraiment aucun intérêt d'acheter un Mac comme ça, sauf si on est un collectionneur fou, mais sinon aucun intérêt pour faire ce que la plupart des gens font, de mettre ce prix-là dans un Mac. Donc l'explication en fait que pas mal de gens avaient du mal à comprendre, c'est que 6 000 euros pour un professionnel, pour un studio de création vidéo, par exemple, je sais pas, des gens qui font du montage pour Netflix ou voilà, 6 000 euros, c'est pas grand-chose si ça leur permet de réduire leur temps d'encodage. Donc l'encodage, en fait, c'est tout simple. C'est quand vous faites un montage vidéo, ben vous devez attendre que le logiciel calcule les effets, les transitions que vous avez mis, etc., etc. Donc si, par exemple, par semaine, une entreprise passe 8 heures, enfin perd 8 heures, en fait, de temps d'encodage, et que et qu'ils facturent 1 000 euros de l'heure, bah, vous imaginez que 6 000 euros, pour eux, c'est pas grand-chose vu le temps qu'ils vont gagner. Donc, c'est comme ça qu'en fait, il faut voir, nous, ça nous paraît excessivement cher, mais pour un studio vidéo, c'est un calcul à faire, et puis ça va rentrer, ça va être vite rentabilisé, quoi.
C'est ça, c'est vraiment un outil professionnel qui s'adresse juste aux professionnels. Et puis, comme tu dis, là, c'est une question de rentabilité. Si tu vois que, ben, tu gagnes tant de temps, si tu fais un calcul très trivial, très, très froid, ben, que ça te rentabilise du temps, c'est ça que tu vas acheter, c'est sûr.
Ah oui. Si tu payes 3 monteurs vidéo, et que pendant 8 heures par semaine, ben, en gros, ils attendent juste que ça encode, voilà, ça va être vite, vite rentabilisé, c'est clair. Donc, par rapport à la concurrence, ils sont vraiment dans les prix que font HP. Je crois qu'ils avaient comparé ça avec un PC de production HP. Bon, c'était à peu près dans les mêmes prix. C'est une autre sphère que celle qu'on connaît nous. C'est vraiment des gens qui ont des besoins spécifiques en termes de puissance. Alors, juste par rapport à la mémoire vive. Alors là, j'ai dû relire deux fois parce qu'il est extensible jusqu'à 1,5 téraoctets. De mémoire vive, donc ça fait 1536 gigaoctets de RAM. Pour vous donner un exemple, moi j'ai un MacBook Pro, il y a 16 gigaoctets de RAM. Donc quand on se dit il peut y avoir on peut passer de 16 à 1600 gigaoctets de RAM,
c'est presque 100 fois plus,
ouais. Ouais, c'est inimaginable, quoi. Enfin mais en tout cas, c'est une machine qui est faite pour l'avenir et pour durer des années pour les professionnels, quoi.
Absolument. Dans sa conception, ce que j'ai aimé, moi, par contre, par rapport au premier MacBook Pro, au premier Mac Pro de 2006, c'est que là, toute la boîte, toute la partie du coffre, l'espèce de tour que vous voyez apparente, ça, tout ça se lève comme une cloche, ça se glisse vers en haut, et là, vous avez accès, en 360, à tous les composants. Alors, vous pouvez ajouter d'en avant, d'en arrière, de par-dessus, par-dessous. C'est vraiment un espèce de squelette en métal, et par-dessus, on appose une cloche qu'on clippe. Le design est bien fait. L'ingénierie en arrière de ça est très, très bien fait. Et vraiment, vous levez la cloche et là, vous avez accès au complet à l'appareil. Pour ceux qui sont partenaires à Apple au niveau de la création de ces machines-là, j'imagine qu'ils vont être très, très contents. Beaucoup plus accessibles, en fait, pour les réparations.
Oui, ben en fait, ça reprend un peu le principe du Mac Pro précédent, c'est-à-dire que le Mac Pro précédent, t'avais un cylindre, tu déverrouillais le bouton à l'arrière et tu soulevais le cylindre et t'accédais à 360 degrés à tous les composants. Donc c'est un peu l'héritage, on va dire, s'il a gardé une chose, on va dire que c'est ça. Même si clairement le design n'a plus rien à voir aujourd'hui, c'est vraiment une belle machine. On a un stockage aussi au niveau. Donc bien sûr, l'entrée de gamme est en 256 gigaoctets, hein, faut rester dans la ligne. S'il nous avait offert un téraoctet, ça aurait été trop, hein, franchement. Mais bon, on peut monter jusqu'à 4 téraoctets de stockage. Il y a deux ports 10 gigabits Ethernet. Donc, les professionnels de la vidéo, en général, accèdent à leur... En fait, j'ai lu ça, c'était intéressant. Les professionnels de la vidéo, ils s'en fichent un peu du stockage de la machine parce qu'ils travaillent surtout en réseau. Si tu veux, leurs rushs et tout sont stockés sur des serveurs. Donc, ce qui est important, c'est les ports Ethernet en 10 gigabits. Là, ça, c'est vraiment important pour ces besoins-là. Et puis après, bah, y a tout un tas de cartes accélératrices, des slots pour ajouter des cartes graphiques, etc. Enfin, bref, c'est un monstre, en fait, de puissance. Mais vraiment, là... Alors, peut-être quand si on avait fait le podcast en 2006, on aurait dit pareil du premier Mac Pro. Ouais. Mais en tout cas, bon, Apple mène un peu la course à la puissance et puis en impose un peu quand même, hein, parce que là, ça rigolait pas.
Et puis parlant de pas rire, pour pouvoir le contrôler, pour pouvoir voir ce que fait cette machine-là, ça prend un écran. Et puis, il y a une polémique aussi avec l'écran qui est arrivé d'Apple. Peux-tu nous en dire un peu plus?
Oui, parce qu'Apple a présenté donc un nouvel écran. Ça fait longtemps que... Je crois que c'était les Cinema Display, hein, les derniers.
Ouais, exact.
Entre-temps, ils avaient vendu des écrans LG qui sont très bien. Hein. Bon, c'était à peu près des écrans à 1000 euros. Et puis là, ils nous ont sorti un... Eh ben, alors attends, comment j'avais appelé ça? Il s'appelle le Pro Display... Alors, j'avais fait une petite blague. Un Pro Display MDR, parce que j'étais un peu morte de rire quand j'ai vu cet écran présenté. Enfin, on va voir, mais bon non, c'est le Pro Display XDR et pas MDR. Donc, c'est un écran, en fait, je pense que c'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. 32 pouces, 6K, HDR, 20 millions de pixels. Enfin, c'est un monstre aussi. Rien que l'écran est un monstre.
Et ils ont présenté donc, l'équivalent hein, dans la conférence de Sony. Ouais. J'étais très surpris de voir. C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros hein, pour avoir un comparable.
Oui, c'est ça. Ils ont comparé un moniteur Sony professionnel qui coûte 43 000 euros. Donc, je pensais pas non plus que ça pouvait coûter ces prix-là. Mais après, bon, comme je te dis, c'est pas dans notre sphère. Franchement, je pense que c'est vraiment... c'est du matériel professionnel, quoi. C'est tout, vraiment. Je pense que le Mac Pro a retrouvé ses lettres de noblesse, là, en visant les besoins très spécifiques des pros qui ont juste besoin que ça avance, quoi. Mmh. Et donc, trois mots pour ce nouvel écran. Je voulais juste dire trois mots sur ce nouvel écran à 5 000 $. Ben, ce n'est pas pour nous. Voilà. Mais franchement, c'est une prouesse technologique, mais ce n'est pas pour nous.
Non, effectivement, ça s'adresse, comme on le dit, aux professionnels. Et en même temps, ça laisse rêveur certains professionnels, j'imagine, parce que quand on parle d'un écran à 40 000 versus maintenant un écran à 5 000, c'est sûr que pour eux autres, ça représente des économies, mais quand on est rendu dans ces strates, ces sphères-là,
C'est clair, c'est pas un indépendant qui fait des petits montages, enfin, quand je dis petit montage, c'est pas du tout négatif, c'est dans le sens... tu produis pas 4 séries télé par an, c'est sûr que il y a quand même un manque dans la gamme pour les gens qui sont indépendants et qui font de la vidéo. Il y a l'iMac Pro, mais pareil, il coûte 6000 euros. Et puis le Mac Mini, apparemment, c'est pas une bête de course non plus au niveau vidéo. Donc bon, il y a encore un petit manquement. Il faudrait un Mac Mini évolutif, quoi, quelque chose comme ça.
Et je serais intéressé de savoir ce que tu penses du pied pour se tenir cet écran-là, ce pied qui a fait les gorges chaudes dans les médias sociaux, un pied à 1000 euros.
Ouais, un pied à 1000 euros, ben écoute, je pense qu'en fait, ils ont un peu merdé, si tu me permets l'expression, parce qu'ils auraient... En fait, vu que l'écran coûte 1000 euros, je me suis dit, mais ils auraient dû intégrer le pied dans le prix de l'écran. Mmh. Et dire, bah, si vous en voulez pas, l'écran coûte que 5000 euros, tu vois. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les pros ont déjà des équipements, ils ont déjà des pieds intégrés sur leur bureau. Enfin, on change pas de pied d'écran dans les studios de vidéo, je parle. Hein. Mmh. Ils changent pas de structure, on va dire, de leur bureau tous les jours. Donc, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont acheter juste la dalle. Et qui vont pas acheter le pied, hein. Là, ça sera compatible avec leur kit VESA ou leur kit, leur pied déjà existant. Mais oui, bon, clairement, je pense qu'ils ont fait une erreur, parce que même la salle, hein, à moitié huée, enfin, ça a surpris beaucoup de monde. Ça a été très vite, hein. Ils ont dit, bon, on fait un pied à 1000 euros et puis, une option, anti-reflet à 1000 euros aussi, hein. Il y a ça. Mais pareil, ça a duré 3 secondes. Tu avais pas vu ça?
Non.
C'est allé trop vite. Ils ont fait... En fait, l'écran, il coûte 5 000 euros et 5 000 dollars. Et il y a une option avec un anti-reflet supplémentaire à 1 000 dollars de plus. Donc, il peut monter à 7 000 dollars, en fait, le pied, l'écran, si tu prends le pied avec. Bon, écoute, je pense que, de toute façon, Apple reste une marque grand public. Mais là, ils remettent un peu les pieds chez les professionnels et c'est pas plus mal. Donc, oui, forcément, il y a de la critique. Bon, voilà. Ils auraient pu jouer plus finement sur cette histoire de pied.
Et c'est sûr qu'ils auraient pu communiquer différemment. Parce que dans le fond, ce qui a retenu l'attention dans les médias sociaux, c'était le fameux pied à 1 000 euros, alors que tout le reste était super bien passé dans cette conférence-là. On était très, très, très contents.
Et puis, iOS 13, iPadOS, tvOS, c'est gratuit, quoi. Tu vois, il y a un moment, les mises à jour sont gratuites, donc... écoute, en plus c'est pas du matériel fait pour nous. Moi j'ai envie de dire tout ce qu'ils ont présenté avant, on va l'avoir gratuitement. Donc est-ce qu'on doit vraiment se plaindre? Je suis pas sûr.
Dans les conférences de développeurs, parce que ce qu'on voit là, on parle d'une conférence, mais ça dure plusieurs jours au niveau de chez Apple. Il y a plein d'autres petites nouveautés qu'on a entendu parler par la bande. Notamment, et moi ce qui a attiré mon attention, c'est dans le milieu professionnel où on va avoir maintenant une belle approche de Apple Business Manager, qui est l'équivalent, je vous dirais, pour les entreprises, pour gérer un parc de téléphone, un parc de iPad, où on va pouvoir avoir dans iOS maintenant une différenciation dans fichiers, dans notes, du contenu professionnel et du contenu personnel, où un employé va pouvoir arriver avec son iPhone, arriver, s'inscrire au business manager de l'entreprise, et là tout d'un coup va avoir un autre fichier sur un autre gestionnaire de fichiers sur son téléphone ou son iPad avec un autre Apple Notes différemment. Ils vont être capables de scinder les deux. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et l'autre truc qui m'a franchement étonné, c'est maintenant d'être capable de fédérer les identités avec Microsoft Azure, qui est pas mal établi au niveau professionnel où beaucoup de gens ont du Microsoft en entreprise, et là vous allez pouvoir vous authentifier avec votre appareil, votre e-device, votre iPad et votre iPhone sur un login mot de passe d'entreprise. Et ça, je trouve ça vraiment chouette aussi. Au niveau personnel, ils y vont à fond, et au niveau professionnel aussi, je trouve ça vraiment chouette.
Ouais, ça évolue dans le bon sens tout ça. Ouais.
Au niveau de la chronique histoire d'Apple, je vous ai enregistré une interview avec l'ami Jean-François qui est de numericcitizen.me, un blogueur, et on vous parle de HyperCard. Dans Apple différemment, j'aime beaucoup parler d'histoire, et cette semaine, en fait, pour l'épisode du mois de juin, un petit spécial d'histoire qui m'a été suggéré par Jean-François, un passionné de la pomme et de la photographie, et qui voulait me parler de HyperTalk. Et comme on a des fois des petits problèmes avec Audrey pour entre les continents à se parler ensemble, j'ai décidé de demander à Audrey si elle me permettait de faire l'interview avec Jean-François pour parler de HyperTalk avec lui. Et ben, on parle pas de HyperTalk pour rien, parce que c'est le 30e anniversaire de la création d'HyperTalk. Et tout d'abord, bienvenue Jean-François, content que tu interviennes dans Apple différemment, ça fait plaisir.
Merci beaucoup de me laisser la parole, de m'inviter comme ça.
Alors, tu me disais que c'était un anniversaire de HyperTalk sur les médias sociaux, puis qu'on allait, toi tu l'avais déjà utilisé, c'est ça?
Oui, en fait, si je peux me permettre, en fait, le vrai nom c'est HyperCard.
OK.
Excuse-moi,
oui, désolé.
Oui. Donc, HyperCard, effectivement, mais en fait, la semaine dernière, on soulignait les 30 ans de ce logiciel qui est sorti en 1987, c'est ça. Donc, et qui se vendait à l'époque 50 $, 49,95, qui fonctionnait donc sur le système d'exploitation qui était à l'époque sur un Macintosh SE. En 1987, c'était la fin du Mac Plus et l'introduction du Macintosh SE à l'époque avec le système 6.
Alors, HyperCard, c'était tout simplement un système de programmation pour développer sur Apple. Ça avait été développé par le célèbre Bill Atkinson, qui a créé beaucoup de choses d'interface, je pense.
Effectivement, Bill Atkinson, qui était une personne mythique chez Apple à l'époque, lors de la création du Macintosh, il était responsable, entre autres, des routines graphiques qui étaient à la base de QuickDraw, donc qui étaient dans la ROM du Macintosh original. Et donc, c'est un des créateurs de MacPaint. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui était focusé sur tous les logiciels de nature graphique. Et c'est sur un... Il l'a avoué récemment, en fait, ça se trouve sur YouTube, il a avoué que c'était dans, lors d'une, un trip, mettons, sur le LSD, qui a eu cette espèce de vision-là d'un logiciel qui est un peu quand même assez difficile à définir. C'est un logiciel qui permet de créer des piles interactives. Pourquoi on appelle ça des piles? C'est qu'en fait, c'est présenté un peu comme une forme de pile de cartes virtuelles.
Oui.
Dans lequel on peut déposer toutes sortes d'éléments, des éléments évidemment visuels comme des images, mais aussi des éléments interactifs comme des boutons et des champs dans lesquels on peut saisir du texte. Et donc, lorsqu'on a une pile dans laquelle on dépose des boutons, bien, ces boutons-là peuvent faire avancer la carte suivante ou la carte précédente. Ici, on y déposait des champs pour du texte, mais ça en faisait une sorte de base de données, en fait.
Ouais, c'est ça. C'est un peu le principe des pages web qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire des éléments qu'on met pour aller d'une page à une autre, là. C'est un peu ça en HyperCard.
Effectivement. D'ailleurs, lorsque le web est devenu populaire avec Netscape dans les années début des années 90. Les gens qui connaissaient HyperCard étaient rapides à noter les ressemblances dans le fonctionnement, puisqu'à l'époque, on pouvait lier une carte vers une autre, en fait, une pile vers une autre. Donc, ce qui faisait, dans le fond, de créer une espèce de réseau hypertexte, de multimédia sur un écran noir et blanc.
C'est vraiment novateur, hein, quand on pense que les interfaces graphiques, ça a débuté de faire un système graphique pour aller d'une carte à une autre. Je pense pas qu'il y en avait beaucoup à l'époque qui faisaient ça sur PC, je pense notamment, mais ça a été quand même assez populaire, qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites par rapport à ça.
Effectivement, en fait, il y a eu une espèce de communauté. Évidemment, le monde de l'éducation a rapidement adopté la plateforme parce que c'était extrêmement simple à utiliser, à développer, et ça permettait de préparer rapidement du matériel interactif, éducatif. Et ça a été, je pense, un des domaines qui en a profité le plus.
Et toi, tu l'utilisais beaucoup dans le passé ou?
Et moi, en fait, j'étais tellement fasciné par ce logiciel-là qu'à l'époque, j'étais étudiant à l'université en informatique et je me souviens que quand ça avait été annoncé, je pense que c'était à travers une revue, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, on avait juste des babillards électroniques et tout.
Oui,
et donc, les nouvelles ne couraient pas aussi vite qu'aujourd'hui. Mais à l'époque, je pense que c'était la revue Macworld qui en parlait. Puis j'étais allé voir un de mes professeurs en informatique avec ça. Puis il était complètement médusé par la technologie. On ne savait pas trop de quelle façon le prendre. Et moi, bon, comme j'étais étudiant à l'université puis que j'avais des examens préparés, je m'étais préparé une pile qui me permettait, dans le fond, de saisir des questions à laquelle je devais répondre moi-même pour me permettre d'étudier des sujets d'examen. Donc, je me souviens que je me cherchais toutes sortes de prétextes pour me monter des piles parce que c'était tellement facile et convivial.
Ouais, tu utilisais le principe de flashcard là, pour pratiquer là, avec ça. Ah, brillant, brillant. Et puis,
c'est super cool.
Ouais, ouais. Et puis, en termes de produits, ça a commencé avant les années 90. Est-ce que ça a continué longtemps, ce...
En fait, je dirais que l'histoire d'HyperCard est un peu tumultueuse. C'est introduit donc en 1987. À l'époque, on se souvient que Steve Jobs était parti de chez Apple.
C'était fait partir, en fait.
Ouais, c'est ça. Mettons qu'on lui a montré rapidement par où la porte était. Et l'avenir a été quand même un peu chaotique. Éventuellement, Bill Atkinson a délaissé le produit. Je pense même qu'il avait quitté. Et donc, ça a été repris à l'intérieur d'Apple. Puis, il y avait comme des batailles, des factions pour savoir qui allait s'occuper du développement des prochaines versions d'HyperCard. On se souvient à l'époque, aujourd'hui, les problèmes qu'on connaît avec les formats d'écran, les écrans de 4 pouces ou de 5 pouces ou de 6 pouces et où les logiciels doivent s'adapter. Mm-hmm. À l'époque, c'était les mêmes problèmes qui survenaient parce que éventuellement, Apple a introduit en 90 les Macintosh LC, 2SI, je pense, il y avait un autre modèle. Puis les écrans étaient de taille différente, plus grands que l'écran original du Mac. Et les gens demandaient à ce qu'HyperCard soit porté dans le fond ou nouvelle, pour lequel il y aurait une nouvelle version qui permettrait d'avoir des cartes de format variable. Et ça avait pris du temps avant que HyperCard s'adapte pour les environnements, non seulement avec des écrans plus grands, mais aussi avec des écrans couleurs. Donc, mais ça a fini par arriver. Je pense qu'il y avait même une version pour le Apple II GS à l'époque sur laquelle on fonctionnait avec le GSOS 5, et version 5 et version 6.
Ah, écoute, c'est fantastique. Et puis, ben ça a fait rêver certaines personnes, dont toi, par le passé, avec ces outils-là. Est-ce qu'il y a eu d'autres développements? Est-ce qu'il y a eu des forks ou des choses comme ça qu'on continuait à la fin d'HyperCard?
Ben, en fait, ce qui est arrivé, je me souviens d'avoir vu, en fait, ce qui est arrivé à un moment donné, c'est qu'il y avait un système de plugin, si on veut, de module qui permettait d'extensionner la fonctionnalité de base de HyperCard. Et je me souviens d'avoir vu à un moment donné dans un kiosque d'information, un Mac qui était relié à l'époque avec un vidéo disque. Donc, c'était quand même impressionnant. Donc, l'interaction se faisait sur le Mac, mais il y avait un écran, un moniteur couleur qui était à côté de l'ordinateur qui présentait du contenu en haute définition à l'époque. Donc, c'était des écrans télévision normale de 4x3. Là. Donc, c'était des systèmes qui permettaient donc de contrôler les séquences qui s'affichaient à partir du vidéodisque. Donc, il y avait donc un système d'expansion à travers des plugins.
Et tu vois, à la dernière keynote qu'on a eue de la keynote des développeurs, en fait, la WWDC, mm-hmm. On était tout contents de sortir Swift UI, où les développeurs, à partir d'une interface graphique, pouvaient ajouter des modules graphiques puis les voir directement, alors que finalement, le 30 ans, on avait HyperCard et puis ça fonctionnait aussi. C'est sûr, c'était pas les mêmes réalités, mais quand même, c'est quand même drôle de voir ça.
Oui, effectivement, Apple a toujours été une compagnie qui, c'est sûr que nous, ce qu'on voit, c'est des produits physiques en magasin, mais en arrière, tous les outils de développement, de la plateforme de développement en tant que telle, c'est un autre produit, en fait, qu'Apple maintient et fait évoluer avec les années.
Écoute, merci beaucoup Jean-François. Si on veut parler un peu plus d'HyperCard ou se remémorer des souvenirs, parce que je t'ai parlé beaucoup en messagerie privée et tu es assez calé sur la marque au niveau de l'histoire, c'est où qu'on peut te rejoindre et si on veut t'écouter même, dis-nous, c'est le moment de nous dire toutes tes bonnes adresses.
En fait, donc, ma présence essentielle sur Internet, c'est mon blog qui est numéricecitizen en un seul mot, .me. Donc, ça, c'est mon blog de départ. Et vous pouvez me trouver sous le même nom, Numérique Citizen, dans l'application podcast où j'ai des podcasts, en fait, une fois par semaine. Ou en fait, une fois ou deux fois par semaine. Une fois ou deux semaines, dis-je bien. Et sur lesquels je vais parler de différents sujets qui entourent Apple et son écosystème.
Parfait. Ben alors, merci. Un grand merci à toi, Jean-François. Et puis, ben, si vous êtes intéressé à HyperCard, ben, vous savez qui maintenant contacter, ou en tout cas pour vous remémorer certains souvenirs, c'est la personne dans l'entourage d'Apple différemment qui va pouvoir nous aider de temps en temps. Allez, merci. Salut. Ciao, ciao.
Merci. Bye-bye.
Au niveau, ben, l'émission continue et va de bon gré. Au niveau des pensées, réflexions personnelles du mois, t'avais rien inscrit dans les notes. Est-ce que tu as arrêté de penser et réfléchir pendant le dernier mois, Audrey?
Ouais, presque. Non, en fait, on en parlera plus longuement peut-être la prochaine fois, mais tu vois, iPadOS, ça m'a vraiment fait beaucoup réfléchir à l'utilisation de mon Mac quand je suis en clientèle. Mmh. Et je me suis dit que peut-être bien que je vais acheter un iPad puisque maintenant avec iPadOS, ben on va pouvoir faire tout ce que je. Ben en fait, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment libéré l'iPad avec ce système. C'est une vraie libération. L'iPad, c'est plus juste un gros iPhone, j'ai envie de dire, même s'il y avait eu quand même des évolutions particulières pour les iPads ces dernières années, mais là je pense qu'on a vraiment une libération complète des tablettes d'Apple. Et donc ma pensée, ma réflexion personnelle du mois, c'est ça. En ce moment, je réfléchis à mon matériel et à comment je pourrais optimiser tout ça. Voilà.
Mais c'est très sensé de cette évolution là. Le recul que j'ai par rapport à l'iPad, c'est qu'ils ont commencé avec une version assez fermée, même iOS en fait. Ils ont commencé avec une version assez fermée pour contrôler un peu l'écosystème, et au fur et à mesure, ils ouvrent certains trucs, et iPadOS, là, ils ont vraiment donné toute la gomme à la dernière génération. Moi, ça fait partie des appareils, des devices de proximité que j'appelle. Un ordinateur portable, il y a toujours cet écart quand t'es avec quelqu'un de l'écran. Tout simplement parce que tu regardes l'écran et tu regardes la personne, il y a comme une espèce de barrière. Mais avec iPad puis iOS, je l'ai déjà dit, c'est des outils de proximité qui fait que tu peux partager du contenu plus simplement. T'as pas besoin de tourner l'écran, c'est bien foutu. Tu peux être debout, tu peux être en mobilité. Et là, en plus, on ajoute une touche professionnelle à iPadOS qui fait que un débutant va s'en sortir très très bien, puis un avancé va pouvoir y aller, une personne avancée comme toi va pouvoir y aller en se disant, tous les freins que je trouvais sont en train, toutes les barrières que j'avais par rapport à l'iPad sont en train de tomber. Et effectivement.
Oui, après, c'est vrai que on m'a gentiment dit qu'il y a des professionnels qui travaillent sur iPad depuis longtemps, donc l'iPad ne devient pas plus professionnel avec iPadOS, mais en tout cas, ça répond, moi, à des attentes que j'avais personnellement. Donc c'est pour ça, je pense que ça va déclencher un achat. Et puis j'ai aussi envie de me mettre au dessin et tout. Alors le pencil, ça m'intéresse aussi. Et puis j'ai un peu l'impression qu'Apple, même si c'était une conférence dédiée au développement, donc au logiciel, je pense qu'Apple a aussi compris que la course au matériel et aux fonctionnalités matérielles, donc Touch ID, Face ID, etc., c'est bien, mais nous offrir plus de liberté et plus d'options au niveau logiciel, c'est un peu ce qu'on attendait, je pense. Parce qu'on a clairement, on a des super appareils. Même aujourd'hui, si on utilise un iPhone 7 ou un iPhone 8, c'est encore des super appareils qui tiennent la route, qui, voilà, on n'est pas obligé d'avoir les derniers modèles. Mais, je trouve ça intéressant qu'ils aient pris je sais pas trop comment expliquer, mais qui vont vers cette évolution, parce que c'était beaucoup de détails, hein. T'as vu les annonces qu'ils ont fait, il y en avait énormément, et c'était beaucoup de petites fonctions qu'on attendait. Comme tu dis, ça se libère de plus en plus.
Ouais.
Et toi, ta réflexion du mois. Oui, pardon. Ta réflexion du mois.
Ma réflexion du mois. Moi, c'est typiquement par rapport aux données personnelles. Je trouve que Apple vend maintenant ses produits, logiciels ou matériels, en rassurant de plus en plus les gens. Je trouve ça chouette parce que je vois beaucoup de gens qui sont freinés à utiliser des appareils, freinés à utiliser des services parce qu'ils ont peur de se faire pirater, parce qu'ils ont peur de perdre leurs données, de perdre le contrôle, ils ont peur de se faire briser leur compte de carte de crédit, et ainsi de suite. Et je trouve que ça va dans le bon sens de l'évolution. Tu sais, on parle de transformation numérique. Ça me fait rire parce que quand j'entends parler le mot, la transformation numérique, c'est pas des outils, c'est pas des logiciels, c'est pas du hardware, c'est vraiment de comprendre, de changer ses façons de faire. Et je trouve qu'Apple est vraiment dans ce sens-là pour monsieur, madame, tout le monde, mais en même temps professionnel, de rassurer les gens sur les données personnelles, sur la sécurisation des appareils. Je trouve ça vraiment super cool. Tu sais, Sign In with Apple, pour moi, c'est la révélation parce que je suis développeur web et typiquement, c'est vraiment un truc qui me fait chier, c'est gérer l'authentification des utilisateurs. C'est pas quelque chose que je veux faire. Je veux pas les identifier. Moi, je veux leur rendre un service qui est adapté en fonction de leur login, mais je veux pas conserver ces données-là. Et Apple va s'en occuper. Moi, je suis vraiment ravi. C'est vraiment la pensée que j'ai. C'est vraiment en lien avec ce qu'a dit Tim Cook hier à Stanford. C'est on peut plus laisser faire ces leaks-là de données, de services, de Google, de Instagram, qui perdent des mots de passe, et ainsi de suite. Avant, ça faisait les grosses nouvelles, puis maintenant, on a abandonné un peu l'idée. Il y a même des services qui t'alertent quand il y a un leak sur un de tes comptes. Tu sais, c'est rendu absolument n'importe quoi au niveau des données personnelles. Et je suis vraiment content qu'Apple mette tout le paquet là-dedans.
Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que toute cette méfiance qu'il faut avoir sur Internet, en fait, ça pourrit un peu l'utilisation de nos produits, quoi. Tu vois, tu fais une carte de fidélité aujourd'hui dans un magasin. J'en ai fait une il y a pas longtemps, c'est pour ça que j'en parle. Donc, il me demande nom, prénom, date de naissance. Je dis ok. J'ai pas mis ma vraie date de naissance, mais l'adresse mail. Donc j'ai mis une adresse mail qui me sert pour ce genre de choses. Et après, il y avait quand même trois cases à cocher. Enfin, c'était pas obligé de les cocher, mais tu sais, avec des petites lettres écrites, écrites en tout petit. Et donc c'était j'accepte que telle entreprise m'envoie des courriers. Enfin, des emails de promotion. Et puis après, t'avais une case, j'accepte que les partenaires de cette marque, et à un moment, la dame, elle a tout coché, tu sais, je lui dis, non, mais attendez, vous cochez pas. Et tu vois, les gens qui cochent pour toi, c'est vraiment problématique. Et je lui dis, parce qu'elle me dit, non, mais ça marchera pas, sinon, je lui dis, non, on laisse tomber. Mais tu vois, la méfiance qu'il faut avoir, c'est vraiment moche, quoi. Donc moi, je suis à fond pour qu'Apple défende notre vie privée, puisque les autres entreprises le font pas, donc ou vont le faire, mais je pense que ça va être un peu tard, hein, parce qu'on a déjà beaucoup de données qui sont parties dans la nature. Ouais. Malheureusement, on n'a pas tous fait attention. Enfin, moi, je veux dire, même il y a 15 ans, quand on a commencé sur Internet, franchement, moi, on savait pas à l'époque, quoi.
Ouais.
On savait pas du tout que ça allait être utilisé à des fins commerciales. Donc, c'est pour ça qu'on est hyper vigilant et que parfois il y a des sujets qui sont un peu tendu sur les réseaux sociaux parce qu'on voilà, maintenant il faut faire gaffe à tout, quoi, et c'est problématique.
Ouais, et on a l'avantage dans le cas d'Apple qu'ils ne fassent pas ça pour les revendre après. Et dans le fond, ils concentrent pas leur concentration, leur focus sur les données personnelles, la sécurisation des appareils, et ainsi de suite. C'est pas du tout en lien à... C'est une démarche commerciale, hein, on s'entend. C'est pour rassurer le public, c'est certain. Mais c'est vraiment pas dans un optique de... En arrière, on va vendre vos données. En arrière, on va vendre vos habitudes. En arrière, on va vendre ci, on va vendre ça. C'est vraiment dans l'esprit, ben nous, on vend du service, on vend des appareils. C'est là-dessus qu'on marge depuis des années. Et on n'a pas besoin de vos données en plus. Et ils arrêtent pas de marteler ça. Et je trouve ça rafraîchissant dans un moment. Et puis, on se rend compte avec la WWDC, c'est que ben, t'as pas besoin d'avoir toutes les données des gens, des utilisateurs pour pouvoir être créatif dans les usages, dans les fonctionnalités des appareils, des outils.
Ouais, c'est ça. Et puis c'est vrai que ça me fait penser au. Il y a eu un. En fait, je crois que le premier moment où on a tilté sur l'utilisation de nos données, c'est quand le capteur Touch ID, donc le capteur qui permet de déverrouiller son iPhone avec son empreinte digitale, a été présenté. Je crois que la première chose qu'ils ont dit dans la seconde, c'est votre empreinte reste sur une. Enfin, il y a une petite puce mémoire où votre empreinte est enregistrée, mais votre empreinte ne sort pas de l'appareil. Et je pense que là, ça a été un peu un cap où Apple a dit « Ah, attention, soit en gros, on rassure tout de suite les utilisateurs, parce qu'il y a plein de gens qui ont dit « Oh non, mais attends, mes empreintes, elles vont partir sur Internet et tout », ce qui était légitime de penser ça. Mais Apple a tout de suite rectifié le tir en disant « Non, c'est conçu pour rester dans une enclave hyper protégée, sécurisée, et donc votre empreinte, c'est quand même la base de notre identité reste sur l'appareil et ne part pas sur Internet. » Et je pense que c'est à peu près à cette époque-là qu'il y a eu un tournant. Faudrait qu'on réfléchisse là-dessus, mais je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu vraiment, où on donnait vraiment de nous-mêmes dans un appareil. C'était pas juste une adresse mail, c'était notre empreinte digitale. Donc,
ouais, effectivement. Et même dans la dernière WWDC, ils en ont remis un paquet en expliquant que ben, typiquement, si vous perdez dans les prochaines versions d'iOS, si vous perdez votre iPhone, votre Mac ou votre iPad, vous allez pouvoir activer une fonctionnalité qui va vous aider à retrouver votre appareil à partir de technologies chiffrées, bien cachées à travers les appareils, mais
même s'il est éteint.
Oui, ouais. Exactement.
Même s'il est éteint. C'est ça qui est énorme, quoi. Ouais. Non, mais c'est très bien.
À travers le réseau d'Apple. Ce qui fait que, ben, si on vous garantit que le réseau d'Apple est bien sécurisé, et que vous êtes rassuré par rapport à ça, vous allez pouvoir l'utiliser au maximum dans tout ce qu'ils offrent. Et c'est gratuit. On n'arrête pas de le dire, mais c'est gratuit.
Ben, c'est pas gratuit. C'est compris dans le prix des produits. Je préfère voir ça comme ça.
Exactement, exactement. Alors Audrey, moi ma petite pensée du jour que je trouvais vraiment en lien avec l'émission, c'est toujours dans le discours de Tim Cook qui a fait à Stanford. Il a dit cette phrase que j'ai retenue pour nous. Soyez différents, laissez quelque chose de valable et rappelez-vous qu'à la fin, vous ne l'emporterez pas avec vous. vous allez devoir le transmettre. Et je pense que c'est un peu l'essence d'Apple différemment, c'est d'essayer de vous transmettre des choses et d'être différent. Qu'est-ce que tu en penses?
Ben écoute, j'espère qu'on remplit cette belle devise et puis qu'on remplit ce programme. Je trouve plus le mot. Voilà, ça y est, c'est la fatigue qui est arrivée. Non, mais j'espère que les gens qui nous écoutent le font avec plaisir. Et puis il faut nous mettre des petits commentaires ou des petites étoiles hein, sur iTunes pour savoir si on parle dans le vide ou si vous nous écoutez encore. Et puis je crois qu'on va terminer là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, et bien on va rappeler en fait où on peut nous rejoindre sur Twitter, sur notre site et un peu partout, AppleDiff, applediff.com. C'est là où vous pouvez nous rejoindre le plus facilement et où on répond. Tu fais une meilleure job que moi où on répond quand même relativement vite par rapport à vos échanges, évidemment.
Je suis toujours addict à Twitter, donc oui, je réponds.
Évidemment, dans les notes de l'émission, ça peut être intéressant de compléter ce qu'on dit pour les autres qui vont venir voir les notes de l'émission pour avoir un principe de partage. Et promis, dès qu'il y a un sign-in with Apple qu'on peut installer sur le site Apple Différemment, il va y être là dessus. Vous allez pouvoir avoir des comptes sur Apple Différemment pour pouvoir échanger entre amateurs des produits Apple. Sur ce, on vous souhaite un très bon mois de juin-juillet, en fait, et on se retrouve le mois prochain. Merci Audrey.
Merci Matt, à bientôt.